J'aimerais parler sur la foi dans les situations bloquées. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, il est écrit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Et puis j'irai au verset 23. « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent, pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant ce qui est invisible, celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Amen. Voilà quelques extraits de ce chapitre 11. Et particulièrement, je m'arrêterai sur les situations bloquées par lesquelles nous passons et combien la foi va être une source de force et de bénédiction dans les situations bloquées. Ce n'est pas votre situation ce soir. Si vous êtes venu avec une situation bloquée, peut-être sur le plan financier, il y a quelque chose qui est bloqué, vous avez fait appel à la banque, vous avez cherché une solution, et manifestement, il n'y a pas d'issue. Eh bien, c'est là qu'il nous faut dégager la foi nécessaire pour croire encore dans cette situation. Peut-être c'est dans votre conjoint qui n'est pas encore au Seigneur, vous priez depuis des mois, depuis des années, et la situation est bloquée. Il n'y a pas d'avancée, votre conjoint ne s'est toujours pas tourné vers le Seigneur. Ou c'est le médecin qui vous a annoncé une mauvaise nouvelle, la situation est mauvaise, la situation est bloquée, il vous dit, voilà, il n'y a pas d'autre solution. Toutes ces situations, nous pouvons les connaître à plus ou moins degrés différents. Mais dans la parole de Dieu, nous allons voir beaucoup de situations bloquées. Il y a un seul antidote et c'est toujours le même, c'est la foi. C'est ce que Dieu nous a donné, en fait, pour tenir ferme ou tenir tête aux situations bloquées. Je pense au médecin, quand nous allons voir le médecin, par exemple, si nous sommes malades, nous avons attrapé la grippe, on n'est pas bien, alors il va nous donner un traitement. Et ce traitement, il va nous donner souvent des médicaments à prendre le matin, le midi et le soir pendant 5 jours. Voilà. Et en général, si on suit l'avis du médecin, bien petit à petit, les médicaments font leur effet et on reprend des forces. On suit les prescriptions parce qu'on fait confiance au médecin. Et la prescription de Dieu, en ce qui concerne la foi, c'est de croire le matin, le midi et le soir. D'entretenir la foi constamment. Un petit peu comme ce médicament qui va être nécessaire le matin, le midi et le soir. Eh bien, la foi, nous devons l'entretenir le matin, le midi et le soir. Et ça, tout au long de notre vie. En fait, ça va être notre antidote aux situations bloquées. J'ai remarqué que Jésus a beaucoup enseigné sur la foi, parce que c'est un sujet qui comptait beaucoup pour lui. Et vous savez qu'il regardait les disciples et il arrivait à savoir le degré de foi qu'ils avaient. C'est pourquoi des fois il disait « vous, gens de peu de foi ». Il voyait chez les disciples, en fait, peu de foi. Et qu'est-ce qu'il nous dirait s'il venait à Toulouse-Ouest ce soir et qu'il voit notre foi? Est-ce qu'il nous dirait « vous, gens de peu de foi » ou est-ce qu'il nous dirait comme ce centenier « je n'ai pas trouvé en Israël » un homme avec une aussi grande foi? Là, il a vu la différence. C'était pourtant un Romain. Mais il a vu en lui une tellement grande foi parce qu'il croyait, cet homme. Il disait à Jésus, ce n'est même pas la peine que tu rentres sous mon toit, tu dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Voilà le type de foi que Jésus attend de trouver en fait dans nos cœurs. Alors que chez les disciples, souvent, Jésus dit, mais gens de peu de foi, où est donc votre foi? Alors ce soir, qu'on puisse prendre modèle sur le centenier qui avait une grande foi, que le Seigneur nous fasse grâce pour croire de grandes choses. Parce que souvent, nous n'osons pas demander de grandes choses. Nous demandons de petites choses, alors nous avons de petits résultats. Mais le centenier, il ose demander de grandes choses dans la foi, et comme il demande de grandes choses, eh bien Dieu aime faire de grandes choses. Dieu aime multiplier, Dieu aime faire grâce. C'est le Dieu du miracle, le Dieu de la multiplication. La foi, c'est un petit peu comme un muscle. Il y a un médecin qui disait que la mémoire, en fait, elle ne s'use que si on ne l'entraîne pas. Eh bien, la foi, c'est un petit peu pareil. Notre foi va décliner, elle va s'affaiblir, elle va s'étioler si on ne l'entretient pas. C'est le même principe, c'est comme un muscle, la foi. Et ça, c'est un verset d'ailleurs qu'on peut lire dans l'Épître aux Romains. Vous savez, quand Abraham avait reçu la promesse de Dieu, « Tu seras le père d'une multitude », il avait déjà 100 ans, Sarah 90, elle était stérile, elle ne pouvait plus avoir d'enfant, elle avait dépassé l'âge de toute manière. Eh bien, le texte dit « et sans faiblir dans la foi ». Et si vous regardez le terme original, ça a donné en français « asthénie ». Asthénie, c'est-à-dire faible, sans force, malade, sans faiblir. Parce que si sa foi avait été malade, si elle avait été affaiblie par la situation, ben il aurait été découragé, il aurait abandonné, il aurait rejeté la pensée de Dieu. Mais il a exercé sa foi sans faiblir dans la foi. Ça veut dire qu'il a fait son exercice de foi et il continue à croire, il continue à faire confiance à Dieu et il continue à s'attendre au Seigneur chaque jour. Eh bien, ça fait que sa foi s'est fortifiée. Alors, on va parler de ce qui fait grandir. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui fait grandir le plus la foi? Est-ce que la quoi? La parole? Ouais, la parole, ça nourrit la foi, mais qu'est-ce qui la fait grandir encore plus? Les épreuves. Les épreuves, en fait, ont un effet déclencheur que, quand on est dans l'épreuve, on s'attend encore davantage à l'action de Dieu. On est tous humains. Quand tout va bien, quand la vie roule comme on veut, qu'il n'y a pas d'opposition, pas d'obstacle, eh bien finalement, tout naturellement, on se met sur une pente douce. Et notre foi, en fait, n'étant pas exercée, entraînée, elle commence à se ramollir un petit peu. Les épreuves, en fait, personne n'aime les épreuves, nous sommes tous pareils, mais les épreuves, ce qu'on aime le moins, c'est souvent ce qui va nous faire le plus grandir. Mais bien sûr, personne ne va les chercher, mais nous n'avons pas besoin de les chercher parce qu'elles arrivent tôt ou tard dans notre existence. Nous devons simplement les accueillir comme un exercice de foi. Un exercice de foi qui va nous permettre de grandir dans la foi. Regardez par exemple Hébreux chapitre 11, verset 1, c'est le premier point, c'est la définition même de la foi. En un verset, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors déjà, on peut évacuer des définitions erronées. Par exemple, la foi, ce n'est pas juste une simple croyance vague en quelque chose d'inconsistant, vous voyez. Ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle que Dieu existe. Il y a beaucoup de gens qui vous disent, mais moi je crois en Jésus. Je crois qu'il est venu il y a 2000 ans, je crois qu'il est mort sur une croix. Mais ils ne croient pas qu'il est ressuscité, qu'on peut avoir une relation personnelle avec lui. Donc c'est une foi plutôt intellectuelle ou une foi religieuse, mais ce n'est pas la vraie foi, comme je lis dans ce texte, une ferme assurance, j'ai relevé dans la parole vivante, c'est une autre traduction. Et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Voilà, c'est ce niveau de foi dont il est question dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Donc, pas la foi religieuse, pas une vague croyance, pas parce que souvent on me dit « oui, comme je suis pasteur », alors des fois on me dit « ah oui, mais moi j'ai un frère qui est prêtre » ou alors j'ai un oncle qui est pasteur. Mais vous, est-ce que vous croyez ou pas? Le fait d'avoir un oncle, un frère, une tante, une cousine qui est dans la foi, ça ne veut pas dire que vous-même, vous croyez. Donc c'est important, c'est personnel. Le premier élément de cette définition, la foi, c'est d'abord une ferme assurance parce qu'elle est fondée sur la parole de Dieu. Nous pouvons croire parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il nous faut connaître l'enseignement des Écritures. En fait, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, si vous ne la lisez pas, la méditez pas, votre foi, en fait, va être fondée sur des croyances personnelles, ou des choses qui vous tiennent à cœur, si vous voulez. Mais la foi, en fait, si vous lisez, vous vous nourrissez de la parole de Dieu, bien sûr, il y aura les épreuves. Mais elle va être enracinée dans la bonne parole et ça va être sa nourriture. Il n'y a rien de plus sûr que la parole de Dieu. Vous savez, sur la terre, il y en a beaucoup qui font des discours et des promesses. Vous vous rappelez les promesses présidentielles? C'était il n'y a pas longtemps. Et en général, on le sait, quand ils arrivent au pouvoir, ils n'arrivent pas à maintenir les promesses. Or, la parole de Dieu, elle est pleine de promesses. Et je dirais que les promesses de la parole de Dieu sont plus sûres et certaines que même tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons avec nos yeux, nos oreilles, sur cette terre. Elles sont au-dessus des promesses humaines. Elles sont au-dessus de la raison humaine. Jésus a dit, en parlant du ciel, il a dit « Le ciel et la terre passeront, par exemple, mais ma parole, mes paroles ne passeront pas. » La parole, elle ne passera pas. Donc la parole, elle est au-dessus de la création même. Nous, nous sommes de la création, nous. Donc même si nous disons des paroles vraies, la parole de Dieu est toujours au-dessus. Et Jésus a dit « Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. » Donc à chaque fois, Jésus disait la vérité. Sa parole est la vérité. Et nous avons raison de croire dans la parole de Dieu. Nous avons raison de faire confiance à Dieu comme notre Père. Ce soir, nous pouvons dire que Dieu est notre Père. Et nous pouvons lui faire confiance comme un enfant. Rappelez-vous, quand vous étiez enfant, vous faisiez confiance à vos parents parce que vous savez qu'ils vous aimaient, qu'ils prenaient soin de vous. Et si votre père ou votre mère vous disait « Pour ton anniversaire, on va t'acheter un vélo », vous aviez confiance que ce qu'ils ont dit, ils vont l'accomplir. Pourtant, ce ne sont que des êtres humains. Ils peuvent se tromper, ils peuvent avoir un problème, une difficulté, pas pouvoir faire ce qu'ils disent. Mais la foi d'un enfant, comme ils savent que les parents, pour l'enfant, ils sont tout puissants, ils peuvent tout faire, ils font simplement confiance aux paroles de ses parents. Nous, ce soir, en fait, ce que Jésus nous dit, c'est de faire confiance à Dieu comme un enfant fait confiance à son père. Ce soir, nous allons faire confiance à Dieu que ce qu'il dit, il l'accomplit. Tout simplement, comme un père le fait pour ses enfants. Je parle d'un père qui aime ses enfants, parce que Jésus prend l'exemple, mais si un fils demande à son père du pain, est-ce qu'il va lui donner une pierre? Non. S'il lui demande un poisson, est-ce qu'il va lui jeter un serpent dessus? Non. S'il lui demande un œuf, est-ce qu'il va lui apporter un scorpion pour le faire fuir? Non. Alors, regardez la conclusion de Jésus, c'est dans Luc 13, verset 11. « Si donc méchant comme vous l'êtes, » et là il fait référence au Père humain, « vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste, et maintenant on parle de Dieu, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Jésus fait un parallèle très clair entre les parents qui donnent de bonnes choses à leurs enfants, mais qui sont quand même malgré tout méchants si on les compare à la bonté de Dieu. Ça ne reste qu'une bonté humaine limitée, souvent égoïste. Mais il dit même si vous êtes méchants comme des êtres humains pécheurs, vous vous efforcez quand même de faire du bien à vos enfants. Alors imaginez comment Dieu qui est saint, qui n'a pas de communion avec le péché, il va faire de bonnes choses pour vous. Mais ce soir, nous nous approchons de Dieu comme un père qui nous aime. Alors ça, c'est le premier aspect de la définition, c'est une ferme assurance. Et ce soir, nous allons prier avec dans notre cœur, en fait, même quand on prie, vous savez ce qu'on peut faire? On peut s'appuyer sur des versets de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est vraiment des promesses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour déclarer les choses. Et donc, ferme assurance. Et puis, une démonstration de celle qu'on ne voit pas, parce qu'on va démontrer par notre comportement, par nos paroles, par notre attitude, on va démontrer qu'on croit en Dieu, même dans les situations bloquées. On va prier, pourtant on ne voit rien. Là, on va prier, on ne voit pas, on n'a pas de forcément de vision ou d'apparition ayant pris dans la foi. Mais nous croyons que Jésus est là par son esprit, qu'il est présent, nous le ressentons dans notre cœur. Nous avons cette assurance, cette foi. Mais c'est une démonstration, ben on ne le voit pas. C'est une démonstration de choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est pas juste quelque chose de caché à l'intérieur que personne ne peut voir ou exprimer. La foi, finalement, elle devient visible à l'extérieur. Et ce que Jésus nous encourage, c'est de croire pleinement, c'est-à-dire de rejeter l'incrédulité. Vous voyez ce père qui vient vers Jésus avec son enfant qui est possédé, et le père dit à Jésus, mais je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Cette incrédulité, elle doit partir. Et cet homme l'avait bien compris. J'en viens aux situations bloquées, c'est au verset 29, dans le texte que nous avons lu. Première situation bloquée, c'était la mer Rouge. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge. On a vu la définition, on a vu combien c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais maintenant, ça c'est, on va dire, c'est la théorie, c'est la définition. Maintenant, comment ça se passe dans la pratique, dans les situations bloquées? Bien, nous retrouvons ici Moïse. Moïse qui est serviteur de Dieu, il a quand même 80 ans, c'est un bel âge, bien honorable. Et il est appelé par Dieu à aller délivrer le peuple 400 ans qui sont esclaves en Égypte, et il arrive là-bas, et Pharaon ne veut absolument pas le laisser partir. Donc lui-même doit faire face à l'incrédulité du peuple, parce qu'il est tout seul. Bien sûr, il a Dieu avec lui, mais en même temps, on ne voit pas les choses bouger, on voit plutôt les corvées augmenter, on voit que le peuple est maltraité, tout cela, ça fait beaucoup souffrir. Et donc Moïse ne comprend pas, les choses n'avancent pas. Puis vous avez les 10 plaies qui vont survenir, jusqu'à temps que Pharaon lâche. Il lâche. Moïse a tenu tête dans la foi. Le peuple, donc, a suivi Moïse. Et ils vont être rapidement confrontés à un nouveau problème. On dirait qu'on sort d'un problème pour arriver dans un autre problème. Vous quittez l'Égypte, gloire à Dieu, vous étiez dans l'esclavage. Mais vous arrivez dans un autre problème, il y a la mer Rouge maintenant. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Et quelquefois, c'est vrai pour nous, Dieu nous a délivrés d'un gros problème, une grosse situation difficile. On a été délivrés de cet esclavage. Et puis, on fait quelques pas, et paf, un nouveau problème qui est aussi important, difficile, sans issue. C'est pour ça qu'il ne faut pas baisser les bras. Parce que, je dirais, certains ont la foi. Quand il s'agit de quitter l'Égypte, là, le peuple, il louait Dieu, il levait les mains vers Dieu, ils étaient dans la foi. Mais dès qu'ils arrivent devant la mer Rouge, la foi, elle s'effondre. Pourquoi ? Parce que la mer Rouge vous dit, vous ne passerez pas. C'est une situation bloquée. Donc, il ne faut pas que notre foi, vous voyez, elle soit en fonction des situations. Quand on est béni, alors on croit de tout notre cœur, et puis quand on a une difficulté, paf, notre foi, elle s'effondre. C'est ce qui est arrivé pour le peuple, il n'arrivait plus à croire, il disait à Moïse, mais tu nous as fait sortir d'Égypte, c'est pour nous faire mourir au désert. Pourquoi ils réagissent comme ça? Parce qu'en fait, ils sont dans une situation impossible, c'est-à-dire que si ça avait été, un ruisseau, alors on pouvait croire qu'on pouvait passer. Si ça avait été un étang un peu plus large, bon, on pourrait essayer de négocier comment on peut faire. Mais là, c'était impossible, impossible de traverser. Et c'est à ce moment-là que, frères et sœurs, quand c'est impossible, il nous faut nous tourner vers Dieu dans la foi, dans le miracle, dans l'action de Dieu, dans l'intervention divine. Ça va être l'attitude de Moïse. Et c'est comme ça qu'on va traverser la mer. Moïse a donc crié à Dieu qui lui a indiqué qu'ils allaient passer à sec, et c'est dans la foi qu'ils sont passés. Dieu a soufflé sur l'eau, ils ont pu passer. Et c'est dans la foi que, par exemple, Pierre a pu marcher sur l'eau, il était dans la foi. Dès qu'il a douté, il s'est enfoncé. Mais je remarque que le peuple est passé en entier, jusqu'au dernier, jusqu'au plus petit. La mer, ensuite, s'est refermée sur les Égyptiens. Mais les Égyptiens, ils ne croyaient pas, ils étaient incrédules et ils sont morts. Voyez, quand on est dans la foi, on est sauvé, on est gardé, on est béni. Mais quand on est dans l'incrédulité, les difficultés se referment sur nous et on est perdu. Alors peut-être c'est le cas de quelqu'un, si vous êtes face à une mer rouge, il n'y a pas possibilité d'avancer, eh bien nous prions le Dieu du miracle qui est capable d'ouvrir la mer en deux et de laisser passer un peuple à sec. Ils n'ont même pas été mouillés par la mer. Mais situation bloquée. Première situation bloquée, la mer Rouge. Deuxième situation bloquée, verset 30. Là, on arrive 40 ans plus tard. Donc, on a passé la mer Rouge. Il y a eu les 40 ans de désert. Donc, ils ont tourné parce qu'ils ont été incrédules. Ils n'ont pas voulu rentrer tout de suite dans le pays promis. Ils ont eu peur. Et 40 ans plus tard, ils arrivent devant Jéricho avec... maintenant c'est Josué, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Mais c'était à nouveau une situation bloquée. Parce que Dieu leur a donné le pays, ça faisait 40 ans qu'ils attendaient ça, cette fois ils sont prêts pour rentrer. Et avec Dieu c'est souvent comme ça, il vous ouvre la porte, et il vous dit « Allez, c'est bon, c'est la bonne direction, et en face de vous il y a un Jéricho, muraille, des murailles infranchissables, il y a une ville fortifiée, et puis le peuple, il n'est pas tellement fort. Ils ne sont pas des hommes de guerre. Et les archéologues disent que les murs de Jéricho, c'était 4 mètres d'épaisseur. Voyez un peu. Ce n'était pas les murets d'aujourd'hui. C'était vraiment des murs énormes. Donc s'il s'agissait d'un petit défi, bah, le peuple aurait la foi pour croire que oui, Dieu va le faire. Admettons, ça serait un petit muret qu'on peut enjamber. Bon, bah, tout le monde croit qu'on va y arriver. Mais là, c'était impossible d'y arriver puisque c'était trop énorme, c'était trop gros, c'était bloqué. Alors Dieu leur a donné la solution. Vous allez faire le tour de la ville pendant 6 jours. Vous chanterez, vous louerez le Seigneur. Et puis le dernier jour, vous pousserez des cris. Et au moment où vous pousserez des cris, les murailles vont s'effondrer. Là, il faut le croire. Parce que ça n'a aucun sens, sur le plan stratégique. Il fallait faire le tour de la ville et pousser des cris, tout simplement, pousser des cris. Alors, il fallait le croire. Vous voyez que Dieu nous met à l'épreuve de la foi. On sait très bien que des cris, ça ne fait pas tomber une muraille de 4 mètres d'épaisseur. Il faut la foi avec. Il faut y croire, il faut croire que Dieu est là et y mettre tout notre cœur. Et c'est pareil pour nous, il y a des murailles qui sont tellement épaisses, elles vous disent, vous n'y arriverez pas, tu ne passeras pas. C'est un Jéricho, c'est puissant, elles sont imprenables. Eh bien, c'est à ce moment-là que nous, on va faire le tour de la ville et pousser notre cri, c'est-à-dire notre prière. Il n'y a aucun mur qui est trop résistant pour Dieu. Vous savez, il y a des murs qui sont tombés dans l'histoire. Le mur de Berlin qui avait été construit. Pendant 28 ans, là, il séparait la ville de Berlin. Et un jour, il s'est effondré. Il n'y a pas des murs qui sont trop difficiles. Les gens disaient, c'est pas possible, il tombera jamais. Il y a des murs qui sont peut-être devant vous invisibles. Des murs, le mur de l'échec, le mur de l'addiction, le mur du découragement, le mur de l'abattement, le mur des impossibilités. Mais regardez Ézéchiel 3, verset 9. Le mur en face, il résiste. Ézéchiel 3.9 dit « Je rendrai ton front » et il parle à Ézéchiel « comme un diamant plus dur que le roc. » Ah, ça c'est Dieu qui le fait. Quand nous sommes dans la foi, quand nous lui faisons confiance, il rend notre front comme un diamant. Et bien ça, le diamant, c'est le matériau le plus dur qui existe. C'est vraiment solide. Ça éclate tout. « Ne les crains pas, quoi qu'il soit une famille de rebelles. » Alors ce soir, on va, dans la foi, s'attendre à ce que Dieu nous endurcisse notre front pour tenir ferme face aux obstacles, comme les Jéricho spirituels. Alors évidemment, ce n'est plus des villes fortifiées, mais ce sont des spiritualités, ce sont des êtres invisibles, ce sont des puissances, ce sont des oppositions. Eh bien, si nous avons cette foi, si Dieu nous rend notre front dur comme le diamant, alors nous pourrons résister avec sa grâce, avec son aide. Je termine avec un dernier exemple de situation bloquée, c'était Rahab, au verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt point avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. On connaît tous l'histoire de Rahab, la prostituée. Elle habitait donc Jéricho, cette ville qui devait être détruite. Donc elle devait être, elle, éliminée ainsi que toute sa famille. Tout devait disparaître, mais... elle a eu la foi, elle a cru, ce qui montre d'ailleurs que la foi, c'est individuel. Moi, je peux croire, Mais je ne peux pas croire pour vous, je peux croire pour moi, je crois en Dieu, je crois que Jésus est mort à la croix, je crois que Dieu est tout-puissant, mais c'est individuel. Et Rahab a cru, elle a saisi que ces espions-là, ce n'étaient pas juste des hommes ordinaires, mais qui venaient de Dieu. La foi, donc, alors que dans la ville, il y avait plein de gens, mais c'est la seule qui a cru. La foi, c'est donc individuel. Elle fut la seule sauvée avec sa famille, donc ses proches, de tout le peuple de Jéricho. La foi, c'est individuel. La foi sauve, parce que cette femme a été sauvée de la mort. La foi sauve. Le texte dit qu'elle n'a pas péri avec les rebelles. Il y a quand même une menace sur la tête de chaque être humain. C'est Jésus qui le dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus afin qu'il ne périsse point, et afin que quiconque croit ne périsse point. » Donc il y a une menace, c'est cette fameuse perdition, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, elle était menacée de périr avec les rebelles. Eh bien, de même qu'elle a eu la foi dans ce Dieu qui avait envoyé ses espions, eh bien, nous pouvons croire en Jésus qui nous sauve et qui nous pardonne de nos péchés pour ne pas avoir la mort éternelle. Et elle a été sauvée, donc personnellement, elle a été sauvée par sa foi. La foi lui a permis aussi de changer de vie, c'est très important, parce qu'une fois que vous croyez, il ne faut pas continuer à vivre dans le péché. Elle était donc prostituée, elle vivait de l'immoralité, elle faisait de l'argent avec ça. Mais quand elle a cru en Dieu, elle a été pardonnée, lavée de ses péchés, et elle n'a pas voulu retourner dans le péché de la prostitution. Elle a dit « c'est fini ». Ça veut dire que quand vous croyez, vous êtes lavé de vos péchés, vous demandez pardon, mais Dieu vous donne une nouvelle destinée. Parce que si on regardait cette femme qui était prostituée, bon, c'était une vie misérable et dure, eh bien, elle est rentrée dans la généalogie de Jésus-Christ. Donc, vous voyez que Dieu nous tire du plus bas bourbier pour nous amener dans sa gloire. Cette femme, il lui a fait grâce. Donc, il lui a donné une nouvelle destinée. Jésus l'explique ainsi, dans Jean chapitre 1, verset 12, il dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu », en parlant de la parole, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais notez deux choses. Un, à tous ceux qui l'ont reçu, est-ce que vous avez reçu la parole de Dieu? Et Jean rajoute, à ceux qui croient en son nom, la foi. Parce que si on reçoit la parole, mais qu'on n'y met pas notre foi, eh bien la suite, à tous ceux qui la reçoivent et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Mais le pouvoir, il vient en troisième position. C'est-à-dire qu'avant, vous avez la foi. Et si on ne passe pas par la case foi, c'est-à-dire je crois en son nom, je crois en la parole, eh bien, il n'y a pas la suite qui arrive. Même si vous l'avez reçue. Vous l'avez reçue, mais si vous ne croyez pas, ben, elle ne vous donnera pas le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais quand vous associez les deux, recevoir la parole et y croire, eh bien, ça produit quelque chose. C'est ça la foi, la vraie foi. Devenir enfant de Dieu, c'est vrai. Moi, je crois que devenir enfant de Dieu, c'est possible pour tout le monde, du moment qu'on reçoit la parole et qu'on y croit. C'est ce que la Bible dit. Elle dit tout simplement à ceux. Alors, ceux, c'est pour tous. Ceux qui l'ont reçue, vous voulez bien la recevoir. Est-ce que vous voulez ajouter la foi? Alors, il y a un pouvoir. Vous allez devenir enfant de Dieu. C'est le miracle. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Votre nom sera écrit dans le livre de vie. Rahab était dans une situation sans issue. Pourquoi? Parce qu'elle était dans un peuple étranger au peuple de Dieu. Elle était dans un peuple qui devait mourir, un petit peu comme nous sommes pécheurs et nous devons mourir dans nos péchés. Elle n'avait donc pas d'avenir, pas d'issue, mais elle a simplement accueilli ses espions avec foi, avec la foi en leur Dieu. Elle a commencé à rencontrer Dieu. Alors qu'elle aurait dû mourir avec les habitants de Jéricho, on peut dire qu'elle était dans une situation bloquée sans issue, mais la foi a débloqué la situation. La foi a permis une rencontre. La foi a permis qu'elle mette à sa fenêtre un fil cramoisi. Vous vous rappelez cette histoire? Elle a mis un fil cramoisi, c'est-à-dire un fil rouge. Et ce fil rouge était un indice pour le jour de la conquête que la personne qui habite dans cette maison-là où il y a le fil rouge, elle sera protégée, elle sera gardée. Elle fera partie du peuple de Dieu. Et ce fil rouge, ce n'est pas une couleur au hasard. Hein. Ça aurait pu être un fil vert, un fil jaune, un fil orange. Mais ils ont choisi un fil rouge parce que c'est l'image. Le rouge, ça évoque le sang. Pour nous, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui est déjà annoncé dans l'Ancienne Alliance. Et en fait, en versant ce fil rouge, ben c'est comme si elle était couverte par le sang de Jésus. Pour nous, c'est comme si nous venons à la croix et que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Ça veut dire que là, quels que soient les événements qui peuvent tomber, arriver, eh bien nous sommes couverts et nous sommes gardés par le sang de Jésus. Ce fil rouge, c'était l'élément visible pour qu'elle soit gardée. Elle est ainsi entrée dans le peuple de Dieu. Alors, j'ai pris 3 exemples de situations bloquées, mais peut-être ce soir vous dites, mais moi aussi, je suis dans une situation bloquée. Peut-être le diable vous fait croire que vous ne changerez jamais, votre situation sera toujours limitée, vous n'arriverez jamais à vous en sortir, vous serez toujours malade. Mais ce soir, je veux m'associer avec vous dans la foi pour croire que Dieu débloque des situations bloquées. Des situations bloquées, il y en aura toujours. Et la solution de Dieu, elle est toujours la même, c'est de croire que Dieu peut faire quelque chose dans une situation bloquée. Alors, en même temps, c'est accessible à tous, mais en même temps, c'est un défi à la raison. Croire, tout le monde peut croire. Il suffit d'ouvrir notre cœur et d'appliquer la parole. Mais il faut peut-être débloquer dans notre esprit ce qui fait blocage à nos raisonnements qui font blocage à la foi, qui nous empêchent de croire. Et alors, si nous faisons cette démarche, alors comme Moïse, ben, nous verrons la mer s'ouvrir en deux par la grâce de Dieu, par le miracle, par la foi. Comme Josué, nous verrons les murailles s'effondrer devant nous parce que nous aurons eu confiance en Dieu. Comme Rahab, nous serons sauvés de la mort éternelle par la foi. Nous serons gardés, protégés. Peut-être vous vous dites dans votre cœur, c'est impossible. Mais j'aimerais qu'on prie un instant pour dire oui, c'est possible. Même, il y a ce témoignage qui me revenait en tête quand je préparais ce message. C'est un témoignage qui est d'un frère, en fait, qui habitait Saint-Gaudens. Et en fait, dans cette famille, lui, il était non-croyant et sa femme s'est convertie. Sa femme s'est convertie et elle a prié pour son mari et elle priait chaque jour pour son mari pour qu'il se convertisse parce que quand on a rencontré Jésus, ben, notre plus grand désir, c'est que tous les autres y connaissent Jésus. Donc, c'est normal si on est en couple. Ben, vous avez rencontré le Seigneur, vous souhaitez que votre mari, votre épouse, elle connaisse le Seigneur. Donc, il priait. Mais là, pour une situation bloquée, c'était vraiment bloqué parce qu'il ne voulait pas entendre parler de Jésus. Ça a duré 1 an, 2 ans. Elle a persévéré 5 ans, 10 ans. Ça a duré 25 ans. Situation bloquée de bloquée. Et pendant 25 ans, il ne voulait pas entendre parler de son Jésus. Tu vas à l'église, mais tu me laisses tranquille, bloqué. Mais cette femme a continué à prier dans une situation bloquée. Elle a continué à faire confiance à Dieu. Et un dimanche, alors que lui arrivait à la retraite, vous voyez que les années ont passé quand même, il arrive à la retraite. Et arrivé à la retraite, lui qui était très actif, il se passe quelque chose, c'est qu'il tombe dans une sorte de dépression parce qu'il n'était plus en activité, qu'il souffrait de... C'est pas un manque d'activité. Le médecin lui a dit, c'est le trac des artistes, vous avez un problème comme ça. Et donc, il est tombé malade, de dépressif. Et voilà, il se morfondait tous les jours. Et sa femme, elle priait pour lui, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Donc, elle allait encore au culte. Et un jour qu'elle revient du culte, son mari lui dit, si ton Dieu peut faire quelque chose pour moi, alors je t'accompagnerai à l'église. Amen. Déjà, c'était un changement d'attitude. Mais il n'était pas encore converti, hein. Alors, il est allé tout seul dans les bois et en fait, il a, avec ses paroles à lui et ses mots à lui, alors qu'il était incrédule, il n'était pas chrétien, il était plutôt athée, en fait, voilà, il était athée, il se définissait comme quelqu'un d'athée. Il s'est tourné vers le ciel, ne sachant pas s'il y avait un Dieu, si Dieu existait. Il a parlé à Dieu comme ça, dans le vide, une sorte de défi. Il a dit à Dieu, bah, si tu existes, bah, guéris-moi. Et bien, c'est ce qui s'est passé, figurez-vous. Comme quoi Dieu exauce des gens même qui prient pour la première fois. C'est la première fois qu'ils prient. La première fois qu'il fait monter vers Dieu cette prière, Dieu qui ne connaît pas du tout, eh bien, il est revenu vers sa femme et il a dit, mais dimanche prochain, je t'accompagne à l'église. Il avait capté la réalité de Dieu et tout cela simplement par une prière. Mais sa femme lui dit, mais comment ça se fait que tu as changé d'avis? Alors, elle qui priait depuis 25 ans, vous imaginez la situation bloquée. Et là, en même pas quelques minutes, ça débloque. Elle dit, mais qu'est-ce qui s'est parlé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 25 ans que je te parle de Jésus, que je prie. Et puis lui, il a répondu, oui, mais tu ne m'en as pas parlé comme j'ai reçu là. Parce que c'était une révélation personnelle. Et quand Dieu vous révèle quelque chose avec ses mots, même si vous êtes athée, vous voyez, vous êtes saisi. En fait, il a été saisi par la présence de Dieu. Il l'a accompagné au culte. Dès le premier culte, il a donné son cœur au Seigneur. Il s'est fait baptiser. Il a servi le Seigneur. Il était retraité. Hein. Il est encore vivant aujourd'hui. Sa femme est décédée. Il était retraité. Donc, je ne sais pas, il avait peut-être 65 ans, 67 ans. Et bien, toute sa retraite, il l'a passé à servir le Seigneur, à distribuer des évangiles. Vous savez, les évangiles bleus, les Gédéons, là, qu'on met dans les hôtels. Eh bien, jusqu'à... Alors aujourd'hui, je ne sais pas s'il continue encore, mais en tout cas, pendant des années, il a fait ce service. En fait, un hyperactif, à plein temps pour le Seigneur, les hôtels, évangéliser, témoigner, parler au... Incroyable, le changement que Dieu a produit en quelques secondes, finalement. Le jour où il a prié, une situation bloquée, frères et sœurs, peut se débloquer instantanément. On va prier. Merci encore, Seigneur, parce que tu es le chef de ton Église et que pour toi, il n'y a aucune situation bloquée. Seigneur, ces situations, elles sont bloquées pour nous, mais pour toi, nous savons qu'elles ne sont pas bloquées et que tu peux transformer tout obstacle, toute opposition. Tu peux anéantir toute œuvre de l'ennemi. Tu peux, Seigneur, redonner du courage à celui qui est abattu. Tu peux amener, Seigneur, à la repentance, à la foi, un rebelle, quelqu'un qui s'est éloigné, peut-être un enfant qui ne veut plus entendre parler de Dieu. Eh bien, nous prions pour que cette situation bloquée se débloque au nom de Jésus et que tu permettes, Seigneur, un retour. Comme la mer rouge s'est ouverte en deux alors que c'était impossible, improbable. Seigneur, tu peux faire un miracle dans une situation sans issue pour quelqu'un qui s'attend à toi devant une muraille infranchissable, une muraille de Jéricho spirituel qui bloque sa route au nom de Jésus. Ce soir, cette muraille s'effondre dans la foi. Et Seigneur, pour cette personne qui s'attend à toi parce qu'elle est perdue, parce qu'elle est liée dans une addiction, parce qu'elle est loin du Seigneur, eh bien, Seigneur, tu la sauves comme tu as sauvé Rahab, tu la protèges de tous les dangers. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Merci d'intervenir dans le saint nom de Jésus. Amen.